C'est une si excellente femme, répondit-il. Je vous accorde qu'elle n'est pas étourdissante, mais je vous assure qu'elle est agréable quand on cause seul avec elle. J'en doute pas, s'empressa de concéder Swann. Je voulais dire qu'elle ne me semblait pas éminente, s'ajouta-t-il en détachant ses adjectifs. Et en somme, c'est plutôt un compliment. Tenez, dit Monsieur Verdurin, je vais vous étonner. Elle écrit d'une manière charmante. Vous n'avez jamais entendu son neveu? C'est admirable, n'est-ce pas, docteur? Voulez-vous que je lui demande de jouer quelque chose, monsieur Swann? Mais ce sera un bonheur, commençait à répondre Swann quand le docteur l'interrompit d'un air moqueur. En effet, ayant retenu que dans la conversation l'emphase, l'emploi de formes solennelles était suranné, dès qu'il entendait un mot grave dit sérieusement comme venait de l'être le mot bonheur, il croyait que celui qu'il avait prononcé venait de se montrer prud'homesque, et si de plus ce mot se trouvait figuré par hasard dans ce qu'il appelait un vieux cliché, si courant que ce mot fût ailleurs, le docteur supposait que la phrase commencée était ridicule et la terminait ironiquement par le lieu comme qu'il semblait accuser son interlocuteur d'avoir voulu placer alors que celui-ci n'y avait jamais pensé. Un bonheur pour la France, s'écria-t-il malicieusement, levant les bras avec emphase. Monsieur Verdurin ne put s'empêcher de rire. Qu'est-ce qu'ils ont à rire, toutes ces bonnes gens-là? On a l'air de ne pas engendrer la mélancolie dans votre petit coin là-bas, s'écria Madame Verdurin. Si vous croyez que je m'amuse, moi, à rester toute seule en pénitence, ajouta-t-elle sur un ton dépité en faisant l'enfant. Madame Verdurin était assise sur un butiège suédois en sapin ciré qu'un violoniste de ce pays lui avait donné et qu'elle conservait, quoiqu'il rappelât la forme d'un escabeau et jurât avec les beaux meubles anciens qu'elle avait. Mais elle tentait à garder en évidence les cadeaux que les fidèles avaient l'habitude de lui faire de temps en temps, afin que les donateurs eussent le plaisir de les reconnaître quand ils venaient. Aussi tâchait-elle de persuader qu'on s'en tînt aux fleurs et aux bonbons qui du moins se détruisent, mais elle n'y réussissait pas, et c'était chez elle une collection de chauffe-pieds, de coussins, de pendules, de paravents, de baromètres, de potiches, dans une accumulation de rides redites et d'un disparate d'étrennes. De ce poste élevé, elle participait, avait contraint la conversation des fidèles et s'égayait de leur fumisterie. Mais depuis l'accident qui était arrivé à sa mâchoire, elle avait renoncé à prendre la peine de pouffer effectivement et se livrer à la place à une mimique conventionnelle qui signifiait sans fatigue ni risque pour elle qu'elle riait aux larmes. Au moindre mot que lâchait une habitude contre un ennuyeux ou contre un ancien habitué rejeté au camp des ennuyeux. Et pour le plus grand désespoir de monsieur Verdurin, qui avait eu longtemps la prétention d'être aussi aimable que sa femme, mais qui, riant pour de bon, s'enflait vite et avait été distancé, vaincu par cette ruse d'une incessance et fictive hilarité. Elle poussait un petit cri, fermait entièrement ses yeux d'oiseau, qu'une taie commençait à voiler brusquement, comme si elle n'eût que le temps de cacher un spectacle indécent ou de parer à un accès mortel, plongeant sa figure dans ses mains qui la recouvraient en n'en laissant plus rien voir. Elle avait l'air de s'efforcer, de réprimer, d'anéantir un rire qui, si elle s'y fût abandonnée, l'eût conduite à l'évanouissement, telle étourdie par la gaieté des fidèles, ivre de camaraderie, de médisance et d'assentiment. Madame Verdurin juchait sur son perchoir, pareil à un oiseau dont on eût trempé le colifichet dans du vin chaud, sanglotait d'amabilité. Cependant, monsieur Verdurin, après avoir demandé à Swann la permission d'allumer sa pipe, ici on ne se gêne pas, on est entre camarades, priait le jeune artiste de se mettre au piano. Allons, voyons, ne l'ennuie pas. Il n'est pas ici pour être tourmenté, s'écria Madame Verdurin. Je ne veux pas qu'on le tourmente, moi. Mais pourquoi veux-tu que ça l'ennuie? dit monsieur Verdurin, monsieur Swann ne connaît peut-être pas la sonnette en fa dièse que nous avons découverte. Il va nous jouer l'arrangement pour piano. Ah non, non pas ma sonnette, cria madame Verdurin. Je n'ai pas envie, à force de pleurer, de me ficher un rhume de cerveau avec névralgie faciale comme la dernière fois. Merci du cadeau, je ne tiens pas à recommencer. Vous êtes bon, vous autres. On voit bien que ce n'est pas vous qui regardez le lit 8 jours. Garderiez le lit 8 jours. Cette petite scène qui se renouvelait chaque fois que le pianiste allait jouer enchantait les amis aussi bien que si elle avait été nouvelle, comme une preuve de la séduisante originalité de la patronne et de sensibilité musicale. Ceux qui étaient prêts d'elle faisait signe à ceux qui plus loin fumaient ou jouaient aux cartes de se rapprocher, qu'il se passait quelque chose, leur disant comme on fait au Reichstag dans les moments intéressants. Écoutez, écoutez, et le lendemain on donnait des regrets à ceux qui n'avaient pas pu venir en l'heure. Disons que la scène avait été encore plus amusante que d'habitude. Eh bien, voyons, c'est entendu, c'est Monsieur Verdurin, il ne jouera que l'andante. Que l'andante, comme tu y vas, s'écria madame Verdurin, c'est justement l'andante qui me casse bras et jambes. Il est vraiment superbe, le patron. C'est comme si dans la 9e, il disait, nous n'entendrons que le final ou dans les maîtres que l'ouverture. Le docteur, cependant, poussait madame Verdurin à laisser jouer le pianiste. Non pas qu'il crût fin les troubles que la musique lui donnait. Il y reconnaissait certains états neurasthéniques, mais par cette habitude, comme beaucoup de médecins, de faire fléchir immédiatement la sévérité de leur prescription dès qu'est en jeu, chose que leur semble beaucoup plus importante, quelques réunions mondaines dont ils font partie et dont la personne à qui ils conseillent d'oublier pour une fois sa dyspepsie ou sa grippe est un des facteurs essentiels. Vous ne serez pas malade cette fois-ci, vous verrez, dit-il en cherchant à la suggestionner du regard. Et si vous êtes malade, nous vous soignerons. Bien vrai, répondit madame Verdurin, comme si devant l'espérance d'une telle faveur, il n'y avait plus qu'à capituler. Peut-être aussi, à force de dire qu'elle serait malade, y avait-il des moments où elle ne se rappelait plus que c'était un mensonge et prenait une âme de malade. Or, ceux-ci fatigués d'être toujours obligés de faire dépendre de leur sagesse la rareté de leur accès, et aiment se laisser aller à croire qu'ils pourront faire impunément tout ce qui leur plaît et leur fait mal d'habitude, à condition de se remettre en les mains d'un être puissant qui, sans qu'ils aient aucune peine à prendre d'un mot ou d'une pilule, les remettra sur pied. Odette était allée s'asseoir sur un canapé de tapisserie qui était près du piano. « Vous savez, j'ai ma petite place, » dit-elle à madame Verdurin. Celle-ci voyant Swann sur une chaise, le fit lever. « Vous n'êtes pas bien là, allez donc vous mettre à côté d'Odette. N'est-ce pas, Odette, vous ferez bien une place à monsieur Swann. » « Quel joli Beauvais !» dit avant de s'asseoir Swann qui cherchait à être aimable. « Ah, je suis contente que vous appréciez mon canapé, » répondit madame Verdurin. « Et je vous préviens que si vous voulez en avoir de si beaux, vous pouvez y renoncer tout de suite. Jamais ils n'ont rien fait de pareil. Les petites chaises aussi sont des merveilles. Tout à l'heure, vous regarderez. » Cela, chaque bronze correspond comme attribut au petit sujet du siège. Vous savez, vous avez de quoi vous amuser si vous voulez regarder cela. Je vous promets un bon moment. Rien que les petites frises des bordures. Tenez là la petite vigne sur fond rouge de l'ours et la raisin. Est-ce dessiné? Qu'est-ce que vous en dites? Je crois qu'il le savait plutôt dessiné. Est-elle assez appétissante, cette vigne, mon mari? Prétend que je n'aime pas les fruits parce que j'en mange moins que lui. Mais non, je suis plus gourmande que vous tous, mais je n'ai pas besoin de me les mettre dans la bouche puisque je jouis par les yeux. Qu'est-ce que vous avez tous à rire? Demandez au docteur. Il vous dira que ces raisins-là me purgent. D'autres font des cures de Fontainebleau, Moi, je fais ma petite crue-cure de Beauvais, mais monsieur Swann, vous ne partirez pas sans avoir touché les petits bronzes de dossier. Est-ce assez doux comme patine? Mais non, à pleine main, touchez-les bien. Ah, si Madame Verdurin commence à peloter les bronzes, nous n'attendrons pas de musique. N'entendrons pas de musique ce soir, dit le peintre. Taisez-vous, vous êtes un vilain. Au fond, dit-elle en se tournant vers Swann, on nous défend à nous autres femmes des choses moins voluptueuses que cela, mais il n'y a pas d'une chair comparable à cela. Quand M. Verdurin me faisait l'honneur d'être jaloux de moi, allons, sois poli au moins, ne dis pas que tu ne l'as jamais été. Mais je ne dis absolument rien, voyons, docteur. Je vous prends à témoin, est-ce que j'ai dit quelque chose? Swann palpait les bronzes par politesse et n'osait pas cesser tout de suite. Allons, vous les caresserez plus tard. Maintenant, c'est vous qu'on va caresser dans l'oreille. Vous aimez cela, je pense. Voilà un petit jeune homme qui va s'en charger.
Or, quand le pianiste eut joué, Swann fut plus plus aimable encore avec lui qu'avec les autres personnes qui se trouvaient là. Voici pourquoi. L'année précédente, dans une soirée, il avait entendu une œuvre musicale exécutée au piano et au violon. D'abord, il n'avait goûté que la qualité matérielle des sons sécrétés par les instruments et ça avait déjà été un grand plaisir quand, au-dessous de la petite ligne du violon, mince, résistance, dense et directrice, il avait vu tout d'un coup chercher à s'élever en un calpotement liquide la masse de la partie de piano multiforme, indivise, plane et entrechoquée comme la mauve agitation des flots que charme et bimolise le clair de la lune. Mais à un moment donné, sans pouvoir nettement distinguer un contour, donner un nom à ce qui lui plaisait, charmé tout d'un coup, il avait cherché à recueillir la phrase ou l'harmonie. Il ne savait lui-même
qui passait, qui lui avait ouvert plus largement l'âme, comme certaines odeurs de roses circulant dans l'air humide du soir ont la propriété de dilater nos narines. Peut-être est-ce parce qu'il ne savait pas la musique qu'il avait pu éprouver une impression aussi confuse, une de ces impressions qui sont peut-être pourtant les seules purement musicales, inattendues, entièrement originales, irréductibles à tout autre ordre d'impression, une impression de ce genre, pendant un instant et pour ainsi dire aussi immatérielle. Sans doute les notes que nous entendons alors tendent déjà selon leur hauteur et leur quantité à couvrir devant nos yeux des surfaces de dimensions variées, à tracer des arabesques, à nous donner des sensations de largeur, de ténuité, de stabilité, de caprice. Mais les notes sont évanouies avant que ces sensations soient assez formées en nous pour ne pas être submergées par celles qui veillent déjà les notes suivantes ou même simultanées. Et cette impression continuerait à envelopper de sa liquidité et de son fondu les motifs qui, par instant, en émergeant. À peine décernable pour plonger aussitôt et disparaître, connu seulement par le plaisir particulier qu'il donne impossible à décrire, à se rappeler, à nommer infâble. Si la mémoire, comme un ouvrier qui travaille à établir des fondations durables au milieu des flots, en fabriquant pour nous des facsimilés de ces phrases fugitives, ne nous permettait de les comparer à celles qui leur succèdent et de les différencier. Ainsi, à peine la sensation délicieuse que Swann avait ressentie est-elle expirée que sa mémoire lui en avait fourni séance tendante, une transcription sommaire et provisoire, mais sur laquelle il avait jeté les yeux tandis que les morceaux continuaient si bien que, quand la même impression était tout d'un coup revenue, elle n'était déjà plus insaisissable. Ils sont représentés l'étendue, les groupements symétriques, la gravité, la valeur expressive. Il avait devant lui cette chose qui n'est plus de la musique pure, qui est du dessin, de l'architecture, de la pensée qui permet de se rappeler la musique. Cette fois, il avait distingué nettement une phrase s'élevant pendant quelques instants au-dessus des ondes sonores. Elle lui avait proposé aussitôt des voluptés particulières dont il n'avait jamais eu l'idée avant de l'entendre, dont il sentait que rien autre qu'elle ne pourrait les lui faire connaître, et il avait éprouvé pour elle comme un amour inconnu. D'un rythme lent, elle le dirigeait ici d'abord, puis là, puis ailleurs, vers un bonheur noble, intelligible et précis, et tout d'un coup, au pont où elle était arrivée et d'où il se préparait à la suivre, après une pause d'un instant, brusquement a changé de direction et d'un mouvement nouveau, plus rapide, menu, mélancolique, incessant et doux. Elle l'entraînait avec elle vers de perspectives inconnues, puis elle disparut. Il souhaita passionnément la revoir une troisième fois et elle reparut en effet, mais sans lui parler plus clairement, en lui causant même une volupté moins profonde. Mais rentré chez lui, il eut besoin d'elle. Il était comme un homme dans la vie de qui une passante qu'il a aperçue un moment vient de faire entrer l'image d'une beauté nouvelle qui donne à sa propre sensibilité une valeur plus grande, sans qu'il sache seulement s'il pourra revoir jamais celle qu'il aime déjà et dont il ignore jusqu'au nom. Non. Même cet amour pour une phrase musicale sembla un instant devoir amorcer chez Swann la possibilité d'une sorte de rajeunissement. Depuis si longtemps, il avait renoncé à appliquer sa vie à un but idéal et la borné à la poursuite de satisfactions quotidiennes qu'il croyait, sans jamais se le dire formellement, que cela ne changerait plus jusqu'à sa mort. Bien plus, ne se sentant plus d'idées élevées dans l'esprit, il avait cessé de croire à leur réalité, sans pouvoir non plus la nier tout à fait. Aussi avait-il pris l'habitude de se réfugier dans des pensées sans importance qui lui permettaient de laisser de côté le fond des choses, de même qu'il ne se demandait pas s'il n'eût pas mieux fait de ne pas aller dans le monde, mais en revanche savait avec certitude que s'il avait accepté une invitation, il devait s'y rendre, et que s'il ne faisait pas de visite après, il lui fallait laisser des cartes de même dans sa conversation. Il s'efforçait de ne jamais exprimer avec cœur une opinion intime sur la chose, mais de fournir des détails matériels qui valaient en quelque sorte par eux-mêmes et lui permettaient de ne pas donner sa mesure. Il était extrêmement précis pour une recette de cuisine, pour la date de la naissance ou de la mort d'un peintre, pour la nomenclature et de ses œuvres. Parfois, malgré tout, il se laissait aller à émettre un jugement sur une œuvre, sur une manière de comprendre la vie, mais il donnait alors à ses paroles un ton ironique, comme s'il n'adhérait pas tout entier à ce qu'il disait. Or, comme certains valétudinaires chez qui tout d'un coup un pays où ils sont arrivés, un régime différent, quelquefois une évolution organique, spontanée, mystérieuse, semble amener une telle régression de leur mal qu'ils commencent à envisager la possibilité inespérée de commencer sur le tard une vie toute différente. Swann trouvait en lui, dans le souvenir de la phrase qu'il avait entendue dans certaines sonnettes qu'il s'était fait jouer pour voir s'il ne l'y découvrirait pas, la présence d'une de ces réalités invisibles auxquelles il avait cessé de croire et auxquelles, comme si la musique avait eu sur la sécheresse morale dont il souffrait une sorte d'influence élective, il se sentait de nouveau le désir et presque la force de consacrer sa vie, mais n'étant pas arrivé à savoir de qui était l'œuvre qu'il avait entendue, il n'avait pu se la procurer et avait fini par l'oublier. Il avait bien rencontré dans la semaine quelques personnes qui se trouvaient comme lui à cette soirée et les avait interrogées, mais plusieurs étaient arrivés après la musique ou partis avant. Certains pourraient être là pendant qu'on l'exécutait, mais étaient allés causer dans un autre salon et d'autres restaient à écouter, n'avaient pas entendu plus que les premières. Quant au maître de maison, il savait que c'était une œuvre nouvelle que les artistes qu'il avait engagé avait demandé à jouer. Ceux-ci étant partis en tournée, soit ne put pas en savoir davantage. Il avait bien des amis musiciens, mais tout en se rappelant le plaisir spécial et intraduisible que lui avait fait la phrase. En voyant devant ses yeux les formes qu'elle dessinait, il était pourtant incapable de la leur chanter, puis il cessa d'y penser.